Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Présenté par Francis Laloupeau.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Je vous présenterai cette émission sans Liliane Niacha, qui est enfin en vacances, quelque part sur la planète. Nous lui souhaitons bien sûr d'excellentes vacances. Au sommaire de cette édition, le feuilleton préélectoral en RD Congo, où plusieurs candidats de l'opposition ont tenu un meeting le 29 septembre dernier, devant des milliers de sympathisants, une démonstration de force pour réclamer des élections transparentes, à défaut d'avoir réussi à désigner un candidat commun et unique pour affronter celui du pouvoir le 23 décembre prochain. L'opposition congolaise est-elle en mesure de créer les conditions d'une alternance politique au terme du processus électoral ? Détails et explications dans cette édition avec nos invités. Autre sujet, la Guinée-Conakry qui a célébré cette semaine le 60e anniversaire de son indépendance dans un contexte contrasté entre fierté historique réactivée et crise politique récurrente ou larvée. Un anniversaire quelque peu assombri par le triste souvenir des massacres d'opposants par les forces de sécurité le 28 septembre 2009. Nous reviendrons sur cette semaine particulière en Guinée avec nos invités. Enfin, nous ferons un point sur le climat préélectoral au Cameroun, où les électeurs sont appelés ce 7 octobre à choisir le futur président parmi 9 candidats à la magistrature suprême. Quelle sera l'issue de ce scrutin ? Un scrutin pour le changement ou pour la continuité du régime Paul Biya aux commandes de l'État depuis près de 4 décennies. Tentative de réponse avec nos invités dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Claude André Loubaya, député à l'Assemblée nationale de la RD Congo, président de l'Union démocratique africaine originelle, UDA originelle en sigle. Monsieur le député Claude André Loubaya, bonjour.
Bonjour Francis et merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être là. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Conakry, Emmanuel Mélimono, bonjour Emmanuel.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Emmanuel Mélimono, reporter de la China Central Television, la CCTV en Guinée. Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Claude-André Loubaya, titulaire d'une licence en relations internationales. Vous avez été gouverneur de la province du Kasaï occidental de janvier 1999 à avril 2006. Vous avez démissionné en 2010 du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, le parti présidentiel. Depuis mars 2013, vous assurez la charge de premier vice-président de la Commission parlementaire Défense et Sécurité, dont vous avez été précédemment le rapporteur à l'Assemblée nationale de la RD Congo. Depuis le 15 octobre 2016, vous présidez l'Union démocratique africaine originelle, en sigle UDA originelle, un parti politique d'essence progressiste créé en 1962 et ressuscité en 2013 et qui est inscrit dans l'opposition à l'actuel pouvoir congolais. Vous êtes député de la circonscription électorale de la ville de Kananga, capitale de la province du Kasaï central. Claudel André Loubaya, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Alors, avant d'aborder le sommaire, monsieur le député, je voulais une réaction de votre part, bien sûr, au prix Nobel, au prix Nobel de la paix qui a été décerné ce vendredi à votre compatriote, le docteur Denis Mukwege, celui qui milite depuis des années contre les violences sexuelles, contre les viols comme arme de guerre. C'est l'homme qui répare les femmes dans son hôpital, sa clinique depuis de plusieurs années, 50 000 femmes déjà réparées. Et tout cela continue évidemment dans un contexte de conflit dans votre pays, notamment à l'est du pays. Votre réaction à ce prix Nobel ?
Merci. Le prix Nobel décerné à mon compatriote, Dr Mukwege, compatriote dont je suis fier d'être frère, d'être concitoyen, mais en même temps aussi, toute la nation congolaise aujourd'hui, nous sommes fiers et nous nous sentons honorés par la communauté internationale à travers le prix Nobel de la paix décerné au Dr Mukwege, un prix qui récompense son combat en faveur du genre humain et plus particulièrement des femmes victimes de violences. Mais ce prix est à la fois un honneur pour la République démocratique du Congo, mais aussi une interpellation à toute la classe dirigeante. Parce que c'est dans cette période très difficile où les conflits persistent à l'Est que ce prix est décerné, et où le cas pour lequel Dr Mukwege a été primé persiste encore. Et donc c'est un défi, c'est une interpellation pour nous tous en tant que classe politique pour que rapidement nous puissions faire cesser, que le gouvernement, de manière plus spécifique, prenne et fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faire cesser les violences à l'est du pays, pour faire cesser les pleurs, les larmes et lamentations des femmes congolaises à l'est et aussi à tout autre endroit. Mais c'est davantage un honneur aujourd'hui. Nous sommes en fête et nous nous réjouissons de voir qu'un de nos compatriotes rejoint le palmarès le plus prestigieux sous lequel figurent Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Ole Soyinka, pour ne citer le secrétaire général de Nations
Unies, Kofi Annan.
Kofi Annan. Et donc, ça montre que le Congo est aujourd'hui une grande nation dont les mérites sont reconnus à travers le monde.
Merci,
et ça rentre le Congo au chapitre dans le Conseil des Nations. Et nous sommes fiers de ça.
Merci de cette réaction, monsieur le député. Peut-être une réaction rapide de votre part aussi, Emmanuel Milimono. Réaction à ce prix Nobel de la paix décerné donc ce vendredi au docteur Denis Mukwege.
Je pense que, comme l'a dit monsieur le député tout à l'heure, c'est une sorte de récompense, hein, comme on appelle, pour son travail, pour les actes que lui, il a déjà eu à développer dans le cadre du renforcement de la paix. Et ça devait être une interpellation pour le gouvernement congolais qui, à l'orée de ces élections présidentielles, continue encore à malheureusement constater cet état de violence dans l'est du pays. Je pense que c'est le moment de se remettre en cause, savoir que ce prix Nobel n'est pas seulement une façon de récompenser le récipiendaire, mais c'est surtout une façon de dire que le travail qu'il est en train de faire est un travail en effet qui porte sur un sujet qui est reconnu, qui est primordial, qui doit être sérieusement pris en charge.
Merci.
Et le gouvernement congolais devrait, je pense, en ce moment, déjà prendre toutes les dispositions qu'il faut pour faire face à cette crise, surtout qu'on s'achemine vers les élections.
Merci beaucoup, Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Nous restons justement en RD Congo avec cette question: quels sont les atouts de l'opposition pour créer les conditions de l'alternance politique à l'issue des prochaines élections prévues au 23 décembre prochain, le 29 septembre dernier? Démonstration de force de cette opposition à Kinshasa, où les candidats de l'opposition justement ont mobilisé la foule pour exiger des élections transparentes et mettre en garde le pouvoir contre toute tentative de manipulation des urnes en vue de favoriser le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary. Première question à ce sujet, pour vous justement, monsieur le député Claudel André Loubaya, à quoi a réellement servi cette manifestation de l'opposition du 29 septembre dernier?
Merci. La manifestation organisée par l'ensemble de l'opposition le 29 septembre dernier était un message très clair adressé au pouvoir de Kinshasa pour que, dans la perspective de préparation des élections, que tout ce qui est fait pour torpiller ce processus soit mis de côté. Un, il s'agit de la question de la machine à voter, un instrument dont nous ne connaissons pas l'usage ici dans notre pays, mais aussi dont l'usage viole l'article 237-ter de la loi électorale, donc la loi de notre pays sous base de laquelle les élections sont organisées ne permet pas l'utilisation de cette machine. Deuxième message pour ce meeting, c'était le nettoyage du fichier électoral. L'OIF a procédé à l'audit du fichier et a démontré qu'il y a dans ce fichier 16% de personnes, 16% d'enrôlés fictifs. Ça représente 10 millions d'électeurs, c'est-à-dire une réserve stratégique importante pour le candidat de la majorité, tant à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives et provinciales. Et donc le message, c'était pour dire au gouvernement, dire à la CENI, qu'il est temps et qu'il faut vite retirer. Il faut nettoyer ce fichier et retirer les 10 millions de fictifs.
Ça fait plusieurs semaines qu'on attend quand même l'opposition sur la question de la candidature commune ou unique. Et d'ailleurs, Martin Fayoulou, un candidat, a déclaré lui la semaine dernière que cette manifestation que nous évoquons là, était, comment dire, donc orientée vers les questions techniques, vers l'organisation de l'élection, et que la question du candidat unique de l'opposition peut attendre. Pour lui, chaque chose en son temps, dit-il. Alors ma question est celle-ci, monsieur le député, est-ce qu'on pourrait peut-être penser qu'à défaut de pouvoir s'entendre sur une candidature unique, l'opposition choisit désormais de se focaliser uniquement, essentiellement, sur les conditions d'organisation de l'élection?
L'opposition congolaise est composée de responsables. Et ici, particulièrement, les principaux candidats, ce sont tous des responsables, c'est des anciens hauts fonctionnaires, que ce soit dans les civils, que ce soit dans l'administration. Ils sont tous conscients de l'enjeu de ces élections de 2018. Et l'enjeu principal ici, c'est l'alternance. Il faut.
C'est l'alternance, mais est-ce que l'alternance passait, nous avions compris cela il y a quelques mois, passait par la mise en place d'une candidature unique de l'opposition. Mais il semble que pour l'instant, donc, l'opposition contourne cette question essentielle, non?
Non, pas du tout. L'opposition est consciente de cet enjeu de l'alternance et de la nécessité d'y parvenir. Et pour y parvenir, une des conditions, c'est non seulement de pouvoir contrôler, s'assurer de la viabilité, de la sincérité, de l'intégrité, de l'intégralité du processus, mais aussi et surtout de se choisir une seule candidature, un candidat commun, faire émerger une candidature commune autour de laquelle...
Ce qui constituerait finalement l'acte politique fort.
C'est l'acte politique fort qui a déjà fait ses preuves dans certains pays et pour la première fois, je crois que l'opposition congolaise va y arriver. Mmh. Le meeting du samedi passé était déjà un grand pas dans cette direction et je crois que d'ici là, ça sera fait le temps que les principaux écueils soient évacués. Parce que le processus, il faut le dire, à ces jours, il ne rassure personne. Il comporte encore beaucoup d'écueils, il comporte encore beaucoup de dangers, il a encore beaucoup de faiblesses, et si cela n'est pas évacué, même une candidature commune, même celle de je sais pas, de Benoît XVI ou de Jésus-Christ, ne pourra pas passer.
Alors, il y a eu plusieurs réunions des leaders de l'opposition le mois dernier, réunions à Bruxelles, en Afrique du Sud, puis un nouveau rendez-vous à Bruxelles. Pour quel résultat, finalement?
Ça fait partie de démarches, ça fait partie d'un processus. Il y a pas, comme je l'ai dit, l'élection de 2018, elle est différente de celle de 2016, de 2011 comme de 2006. En 2018, tout le monde est conscient qu'il faut évacuer le péril Kabila, il faut évacuer le régime Kabila et que la seule façon d'y parvenir, c'est de trouver et de réfléchir aux stratégies idoines à même de permettre à l'opposition d'atteindre cet objectif. Et ça demande qui est les rencontres, ça ne fait partie que de contacts normaux, dans la mesure où certains de ses opposants ont été, comme ce Moïse Katumbi, interdits et empêchés d'entrer sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mmh. Ce qui oblige bon nombre d'entre eux de le rejoindre en Europe ou en Afrique du Sud ou ailleurs pour pouvoir réfléchir ensemble plutôt que de le faire au téléphone ou par vidéoconférence. Donc c'est tout simplement pour un besoin de proximité, mais aussi un besoin d'identité de vue que l'opposition par moment est malgré elle obligée de se déplacer parce que certains d'entre eux ont été empêchés malheureusement de rentrer sur le territoire de la République démocratique du Congo.
Monsieur le député Claudel André Loubaïa, presque 3 ans quand même de crise politique dans votre pays. Comment vous, acteurs de l'opposition, expliquez à vos partisans que après tous ces mois d'une crise politique, l'opposition ne soit pas aujourd'hui, en mesure de présenter une stratégie opérationnelle pour conquérir le pouvoir?
Non, la crise c'est pas 3 ans. La crise est partie depuis 2011, le 28 novembre 2011.
Oui, vous remontez à 2011.
C'est Hold Up électoral de 2011 qui a consisté à voler la victoire de l'opposition qui était à ce moment-là obtenue par le feu président Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire. Mmh. Et donc c'est la crise a commencé à ce moment-là. Mmh. Et c'est cette crise qui persiste jusqu'aujourd'hui.
D'accord, avec des rebondissements et des épisodes divers.
Sur le parcours, l'opposition a connu des hauts et des bas. Sur le parcours, il y a eu ceux qui sont décédés, comme le feu Étienne Tshisekedi. Oui. Mais il y en a aussi qui n'ont pas été en mesure d'aller jusqu'au bout et qui se sont fait récupérer. D'accord. Et qui ont rejoint la majorité. Mmh. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la démarche. Mmh. C'est un combat qui continue, mais je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde ait pris conscience de la nécessité d'arriver, d'arracher, de booster l'alternance. Et cela est possible pour 2018. Mais pour qu'on y arrive, il ne faut pas seulement que l'opposition ait un projet commun, un candidat commun. Non, mais il faut d'abord et surtout que le processus électoral lui-même soit viable, soit clair et soit débarrassé de tous ceux qui entament sa crédibilité, son intégrité et son prestige. Et parmi cela, il y a la question de la machine à voter qui est... qui est imposée et que la majorité tient à imposer. Il y a la question du fichier électoral qui est infesté et que l'on veut amener aux élections. Il y a la question même de la sécurisation du processus électoral en ce qui concerne le mouvement des candidats, le mouvement des électeurs, le jour du vote, la transparence du scrutin. Il y a la question du financement même. Il y a autant d'écueils, autant de questions qui doivent être réglées pour permettre à l'opposition, ou permettre sinon à l'ensemble du peuple congolais, d'aborder ces rendez-vous du 23 décembre sans problème et s'assurer des mêmes chances et des chances égales à tous les niveaux.
Monsieur le député,
c'est pour cela qu'à ce jour, l'opposition continue et poursuit les contacts aussi bien au pays qu'à l'étranger pour fédérer toutes ces énergies, les mobiliser et les préparer à affronter victorieusement le rendez-vous du 23 décembre 2018. Encore qu'il faille que ce rendez-vous ait lieu, parce que tel que nous suivons le processus, il y a beaucoup d'indices qui ne rassurent pas.
Oui, donc ces élections demeurent hypothétiques. Mais alors, pour conclure sur ce chapitre, monsieur le député, nous écouterons notre confrère Emmanuel-Émilie Monod sur la question de la candidature commune ou unique. Alors, sans s'accrocher au fétichisme de cette candidature unique, est-ce que vous pouvez nous affirmer très clairement dans cette édition aujourd'hui que l'opposition parviendra à mettre en place cette candidature unique et à quelle échéance ?
D'abord, je ne suis pas porte-parole de l'opposition.
Mais vous faites partie quand même de la dynamique.
Donc, je n'ai pas reçu mandat pour vous donner les assurances.
Votre sentiment.
Impossible. Mais du moins, je peux vous rassurer que par le fait de ma position, je suis en contact avec tout le monde et que cette position me permet de travailler avec tout le monde et de nous m'assurer que nous sommes ensemble en train de construire un projet commun. Nous avons aujourd'hui une vision commune et une stratégie, et aussi lever l'option d'une stratégie commune pour y arriver. Cela me convient à dire qu'effectivement, pour 2018, l'opposition pourra se réunir et se mobiliser autour d'un projet commun et d'une candidature commune.
Emmanuel-Émilie Monod, un commentaire, enfin une analyse de la situation à quelques mois d'une élection qui demeure hypothétique. Si on en croit Claudel André Loubaya, qu'est-ce que vous pensez de cette difficulté à mettre en place cette fameuse candidature unique qui pourrait être l'acte fort justement face au pouvoir lors de ces élections?
Oui, on pourrait considérer ça comme l'acte fort, comme vous l'avez dit, mais ça demeure encore difficile à mettre en place parce que ça va être une première pour le Congo d'ailleurs. Et en Afrique, on n'a pas vu ça, ce sont des cas qui sont très rares, tout simplement parce que ce n'est pas évident de pouvoir réunir dans une entité des acteurs politiques qui ont des projets politiques communs, qui ont des stratégies politiques, qui ont des projets politiques différents, des stratégies politiques différentes, et qui sont tous dans la course, dans la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, si l'on se focalise sur cette question, à mon avis, je pense que l'opposition congolaise risque de perdre plus en temps que de pouvoir produire un résultat beaucoup plus, un résultat qui puisse répondre aux attentes des uns et des autres. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir au Congo un projet politique commun dans l'opposition, ni même d'avoir un candidat commun. Les questions fondamentales resteront et demeurent, même si toute l'opposition présente le même candidat.
C'est ça.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la crédibilité du scrutin au Congo. Monsieur le député a parlé tantôt du hold-up de 2011. Ce sont des questions qui vont continuer à demeurer, même si toute l'opposition présente un seul candidat.
Emmanuel,
ce qui est important aujourd'hui pour l'opposition congolaise, c'est de pouvoir mettre en place plutôt une stratégie qui lui permette de prendre part au scrutin, à toutes les étapes. Aujourd'hui, passer de l'audit du fichier électoral jusqu'à la publication des résultats, jusqu'à la confirmation de ces résultats, il faut que l'opposition puisse intervenir sur toute la chaîne de ces élections pour lui donner justement, pour lui permettre d'avoir un regard qui lui donnera la possibilité non seulement de faire voter, mais aussi de faire, de sécuriser les voix qu'elle obtiendra au soir du scrutin.
Merci Emmanuel, on marque une pause tout de suite, on revient après.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Présenté par Francis Laloupeau.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Suite du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris, en duplex, pas cette fois-ci en duplex à Dakar et Paris, mais à Paris. L'émission est réalisée cette semaine exclusivement à Paris et nous accueillons notre grand témoin de cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Claudel André Loubaya, député à l'Assemblée nationale de la RD Congo, président de l'Union démocratique africaine originelle, UDA originelle. Notre grand frère invité dans cette édition, il est à Conakry, au téléphone, Emmanuel Milimono, reporter de la chaîne Central Television, la CCTV en Guinée. Merci d'être avec nous. Claudel André Loubaya, monsieur le député, je voulais votre réaction sur le discours prononcé il y a quelques jours à New York, au siège des Nations Unies, par le président Joseph Kabila lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, deux points évidemment ont été notés dans ce discours. C'est le financement de l'élection présidentielle, des élections au Congo en décembre prochain. Le président Kabila considère que aucun financement extérieur ne serait nécessaire et que le Congo pourrait faire face à ce financement exclusivement. Et deuxième point, la demande par le président Kabila du départ de la force onusienne, la MONUSCO, dans votre pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux points qui ont été donc avancés, qui sont aujourd'hui finalement, je dirais, les deux angles forts de la diplomatie congolaise sur la scène internationale?
Merci. Le discours du président Kabila à la dernière session de Nations Unies à New York n'a pas été pour nous un événement dans la mesure où il n'a fait que répéter une rhétorique qui a été adoptée par la diplomatie congolaise depuis quelque temps, c'est celle d'évoquer la souveraineté du pays, et que dans le cadre de cette souveraineté, la RDC rejette tout financement extérieur. Mais derrière tout ça, il y a un vrai problème, une vraie raison. C'est l'intention de Kinshasa d'organiser des élections hors caméra, c'est-à-dire de piloter tout seul le processus.
Les élections à huis clos?
À huis clos, justement. C'est-à-dire organiser des élections sans observateurs internationaux, parce que si jamais Kinshasa acceptait un financement, un appui, que ce soit de la MONUSCO, en fait un appui de la communauté internationale, cela voudrait dire qu'il y ait un droit de regard. Alors à ce moment-là, ça poserait problème. Donc ça cache mal quand même l'intention réelle de Kinshasa de pouvoir organiser de vraies élections, c'est-à-dire des élections crédibles au pays en ce moment.
Quel est l'impact de ce discours quand même? Parce que évidemment, c'est vrai que ce discours n'est pas nouveau. Cette fois-ci, il a été porté quand même devant la communauté internationale dans un cadre particulièrement solennel. Quel est l'impact aussi sur les relations diplomatiques du Congo avec ses partenaires?
Non, je crois qu'aujourd'hui, les relations diplomatiques du Congo avec ses partenaires sont exécrables. Kinshasa a des problèmes avec tout le monde parce que Kinshasa refuse, bien sûr, il dit qu'il ne veut pas qu'on lui fasse des leçons, il ne veut pas qu'on lui parle des violations des droits de l'homme, mais en même temps que Kinshasa fait appel à la communauté internationale lorsqu'il s'agit d'intervenir, par exemple, dans la lutte contre Ebola ou dans la lutte contre le choléra. Donc cette souveraineté-là qui est relative, nous ne comprenons pas pourquoi Kinshasa s'entête, mais c'est tout simplement une façon pour Kinshasa, et nous en sommes convaincus, de vouloir organiser les élections sans qu'il y ait un regard étranger, un regard objectif qui puisse être porté sur le déroulement de l'ensemble du processus. Mais de deux, lorsque dans son discours, le président demande que la MONUSCO puisse se retirer. Oui, c'est trop beau aujourd'hui. Il peut demander le retrait de la MONUSCO, mais aujourd'hui, il n'en a plus qualité. Il n'a pas mandat pour ça aujourd'hui. Son mandat a expiré depuis décembre 2016. Et il est là aujourd'hui par le fait d'un accord. Il est là aujourd'hui par le fait d'un fait accompli. Il ne peut pas demander aujourd'hui à la MONUSCO de pouvoir se retirer. D'autant plus que c'est le gouvernement qui recourt constamment aussi à la MONUSCO. Chaque fois qu'il est menacé, il s'appuie sur la MONUSCO. Et quand vous parcourez l'ensemble du territoire national, vous verrez que même les officiels les officiels se déplacent avec les hélicoptères de la MONUSCO. On a vu un gouverneur aller à Beni, se rendre à Beni après les dernières tueries dans un hélicoptère de la MONUSCO. Donc ça veut dire que quelque part, Kinshasa n'a pas les moyens de sa diplomatie, n'a pas les moyens de sa politique. Il se contente tout simplement du chantage pour essayer peut-être d'arracher certaines concessions de la part de la communauté internationale.
Chantage, est-ce qu'on peut réduire ces discours à de simples manœuvres dilatoires?
Exact. Exact. Mmh. C'est tout simplement des manœuvres dilatoires, sachant bien qu'il n'a pas le moyen d'aller jusqu'au bout. Et il n'a pas, sa capacité de résistance est très, très, est extrêmement limitée. La preuve, c'est que Benny est là. Ça fait 7 ans aujourd'hui que l'on tue, que l'on viole, que l'on pille, que l'on désorganise la société et Kinshasa est incapable d'avoir une réponse armée, une réponse sous-politique, militaire suffisante pour mettre fin à cette désorganisation de la société, bien qu'eux, ils qualifient ça de terrorisme.
Mais au-delà de cette, position tacticienne du pouvoir, est-ce que vous considérez-vous personnellement que la MONUSCO est arrivée au bout de sa mission sur le sol congolais?
Je ne dis pas ici que la MONUSCO a totalement réussi. Je ne dis pas non plus que la MONUSCO soit devenue indispensable, non. Mais du moins, elle sert de temps en temps à certains endroits, tout simplement d'appui là où le gouvernement est limité. Mais ça fait quand même 20 ans et c'est aussi trop. Mais nous pensons à notre niveau que le retrait de la MONUSCO devra faire partie d'un processus. Il faudra que le gouvernement se mettent avec les Nations Unies, qu'ils conviennent d'un retrait progressif et que les mécanismes, les modalités de tout cela soient arrêtés d'avance. Comme ça, ça permet un retrait qui ne préjudicie personne. Aujourd'hui, la mission coûte énormément de l'argent, c'est vrai, à la communauté internationale, mais en même temps aussi que son impact sur terrain, il est relatif et il pose aussi des questions.
On va revenir dans quelques instants sur les conditions techniques d'organisation des prochaines élections. Mais avant cela, Emmanuel Milimono, un commentaire sur sur les propos de Claudel André Loubaïa, notamment sur le discours de Joseph Kabila à l'Assemblée générale des Nations Unies, sur ses postures tacticiennes, comme vient de l'indiquer Claudel André Loubaïa, notamment sur la question du retrait de la MONUSCO ou du financement des élections par le Congo exclusivement.
Moi, je pense que ce discours, il a soulevé plus de questions qu'il n'en a apporté de réponses. Parce que lorsque Joseph Kabila demande à ce que la MONUSCO, par exemple, se retire, en attendant, qu'est-ce que l'armée congolaise propose en retour? Parce que pour l'instant, il y a encore des situations d'insécurité, d'instabilité dans certaines parties du territoire. Je pense qu'il faut d'abord réussir à convaincre la communauté internationale qu'aujourd'hui, si l'on retire la MONUSCO, effectivement, le Congo est capable d'assurer la protection, la sécurité de sa population. Mais pour l'instant, je pense que cette question n'a pas trouvé de réponse. Et l'autre débat, c'est celui sur le financement des élections. Et également, le Congo est un pays très vaste. Est-ce que aujourd'hui l'État congolais a les moyens de pouvoir financer lui-même ses élections? Et si cela devait être le cas, ça ouvre une autre parenthèse.
D'autant que la raison officielle avancée il y a quelques mois par le pouvoir congolais pour ne pas organiser l'élection en temps et en heure, c'était justement la question du financement, le manque de financement qui avait été avancé initialement comme raison pour ne pas tenir les délais constitutionnels d'organisation des élections.
Voilà, et donc on peut se poser aujourd'hui la question de savoir si Joseph Kabila voudrait financer les élections par l'État congolais lui-même, d'où est-ce qu'il va prendre ses fonds? C'est ça la grande question. Et si jamais ces fonds ne sont pas disponibles à temps, ça veut dire que sans la communauté internationale, on s'achemine vers un report de ce scrutin. C'est qui va encore allonger cette transition, cet accord qui a été ouvert récemment et qui l'a maintenu au pouvoir. Et l'autre aspect également, c'est que si le Congo finance ses élections, ça veut dire que le Congo peut refuser toute observation internationale. Et ça va remettre encore au devant de la scène le manque de sincérité, le manque de crédibilité du scrutin, parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos États africains, parfois même quand le scrutin il a l'air transparent, il y a toujours des suspicions. Ce n'est pas facile de rassurer tous les candidats, tous les compétiteurs. Je pense que ça va créer un climat qui va placer encore l'opposition dans une position de se rétracter sur elle-même. Et bien entendu, au bout, qu'on arrive à avoir un scrutin qui ne sera pas, dont les résultats ne seront pas acceptés par les différents compétiteurs.
Ou un prolongement de la crise politique, c'est encore possible.
C'est un autre résultat auquel on pourrait aboutir.
Merci Emmanuel Milimono, restez avec nous. Claudel André Loubaïa, alors au cœur des revendications de l'opposition, il y a cette fameuse machine à voter, vous en parlez tout à l'heure. Alors ce jeudi, cette semaine, la commission électorale a réuni les différents candidats pour faire un bilan d'étape sur la préparation technique de ces élections. Alors 15 des 21 candidats à la présidentielle réclament tous le retrait de cette machine à voter. Alors question, quelle sera la conduite de l'opposition si cette machine à voter était quand même maintenue par la commission électorale jusqu'au bout? Monsieur le député, vous nous entendez? Claudien André, vous voyez?
Oui, vous m'entendez?
Oui, vous m'entendez? Vous avez entendu ma question?
Oui, j'ai entendu votre question.
S'il vous plaît.
Je disais qu'il est hors de question pour l'opposition de participer à une parodie d'élection jouée d'avance. Parce qu'avec la machine à voter, il a été démontré dernièrement par des experts britanniques que la machine à voter en réalité n'est pas une imprimante, c'est pratiquement un ordinateur qui contient des ports USB, des ports SD, mais aussi de la possibilité d'avoir une mémoire, de se connecter sur Wi-Fi, de recevoir et de transférer des données.
C'est ça.
Donc, il est impossible dans ces conditions pour l'opposition d'accepter que la loi du pays, la loi, en l'occurrence la loi électorale, à ses dispositions 237 terres, soit violée et que l'opposition participe à une telle élection. Ça, c'est hors de question, mais en même temps aussi que l'opposition a lancé un avertissement. Le peuple était le 29 septembre ici sur Triomphal. Le peuple a lancé un avertissement sérieux au pouvoir et à la CENI pour que cette machine soit retirée. Mais non seulement le peuple a lancé cet avertissement, il a même symboliquement incendié et incinéré un échantillon de cette machine. Dans un pays où 90% de la population n'a pas recours au téléphone Android, il serait très difficile de demander à ces personnes aujourd'hui d'affronter un clavier ou même de pouvoir choisir de taper sur des touches, je sais pas, AB ou QWERTY, AZERTY et consorts. Ce serait trop risqué et c'est inacceptable. C'est, comme je l'ai dit, hors de question. L'opposition n'est pas prête à aller comme de moutons de tabasque à la Tabaski à une élection déjà jouée d'avance avec des machines préprogrammées, avec des résultats préprogrammés. Donc pour nous, il est hors de question et la pression va continuer crescendo jusqu'à ce que le pouvoir puisse retirer. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'au cours de la réunion qui s'est tenue hier à la CENI pour une évaluation d'étape du processus électoral, l'ensemble de candidats de l'opposition, rejoints par d'autres aussi indépendants et autres, tous d'une seule voix ont exigé le retrait pur et simple de la machine, parce que cette machine, ce n'est pas la volonté du constituant, c'est pas la volonté du législateur, mais c'est plutôt celle du pouvoir en place, dans sa stratégie calculée, d'opérer cette fois-ci un hold-up électronique après celui de manuel organisé en 2006 et en 2011.
Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous invite à présent à continuer à commenter avec nous d'autres sujets d'actualité.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec le grand témoin invité, Claude-André Loubaya, député à l'Assemblée nationale de la RD Congo, président de l'UDA originelle, c'est l'Union démocratique africaine originelle. Notre confrère invité depuis Conakry en Guinée, Emmanuel Milimono, reporter de la CCTV en Guinée. Nous allons justement cette fois-ci en Guinée pour parler du 60e anniversaire d'indépendance de ce pays. C'est le 2 octobre dernier. La Guinée a donc célébré la fête de l'indépendance en présence de plusieurs dirigeants africains 60 ans après le rejet par référendum de la constitution relative à la création d'une communauté franco-africaine prônée alors par le général de Gaulle. Ahmed Sékou Touré, qui deviendra le premier président de la Guinée indépendante, avait alors adressé ces mots au général de Gaulle, je cite, « Il n'y a pas de dignité sans liberté, et nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Fin de citation. La Guinée deviendra alors le premier pays d'Afrique francophone à accéder à l'indépendance 60 ans après. Quelle est l'actualité de la Guinée? Alors, Emmanuel Milimono, c'est à vous que j'adresse la première question. Alors, cet anniversaire, il faut le dire tout de suite, a été quelque peu assombri par un autre, celui des massacres d'opposants perpétrés par les forces de sécurité le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre de Conakry. 60 ans plus tôt, jour pour jour, le 28 septembre 1958, les Guinéens disaient non à la France de Gaulle. Alors comment les Guinéens ont-ils conjugué ces deux souvenirs, d'autant que le procès des massacres de septembre 2009 n'a pas encore eu lieu?
De manière générale, il faut dire que c'est d'abord l'ambiance festive qui a beaucoup plus caractérisé la commémoration de ces 60 années d'indépendance. Malheureusement, comme vous avez eu à le souligner, aujourd'hui en Guinée, on va célébrer désormais le 28 septembre sous deux facettes. sous l'angle de la fierté du 28 septembre 58, mais également sous l'angle de la déception du 28 septembre 2009. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux dates coïncident parce que les deux ont toutes été des moments au cours desquels les Guinéens ont exprimé un non. Lorsque vous prenez le 28 septembre 1958, c'est un non contre le projet de communauté franco-africaine qui avait été proposé par le général Charles de Gaulle. Mmh. Et le 28 septembre 2009, c'était un autre non, cette fois-ci un non contre une candidature de d'Addis Camara, qui était à la tête de la junte militaire, malheureusement, qui s'est soldée par un massacre de militants et d'opposants. Mmh. C'est déplorable. Aujourd'hui, malheureusement, on doit fêter cette date anniversaire sous ces deux facettes. Mais ce qui a été mis en avant cette année en Guinée, en tout cas par les autorités, c'est la fierté du 28 septembre 1958.
C'est ça.
Parce que même quand vous regardez aujourd'hui dans les rues de Conakry, vous verrez que c'est la génération du président Sékou Touré et tous ses compagnons de l'indépendance, ceux qui l'ont accompagné des pays africains, tels que les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, Nelson Mandela et tous ces grands leaders de sa génération, ce sont eux qui ont été mis en avant. Mmh. Même le président général Lansana Conté, qui a succédé à Sékou Touré, n'a pas été pratiquement présenté, en tout cas son image n'a pas été présentée au cours de cette commémoration. Mmh. Ça veut dire que la Guinée, cette année, a décidé de célébrer le 28 septembre sous l'aspect de sa fierté, de sa souveraineté retrouvée le 28 septembre 1958. Mais ça n'occulte pas, le fait qu'on a encore des familles qui continuent à réclamer justice pour les massacres des opposants au stade du 28 septembre. Mmh. Cela n'est pas occulté. Les enquêtes sont en cours. Le procès.
Est-ce qu'on occulte aussi pour autant les années Sékou Touré, quand même marquées par une violence d'État, hein, de triste mémoire, les années Lansana Conté également, marquées aussi par la violence d'État?
Écoutez, les dernières décennies, peut-être, ont été n'ont pas permis aux Guinéens de mettre en lumière l'histoire du pays. On a, à un moment donné, décidé d'aller vers la réconciliation sans pour autant sortir, en réalité, ce qui a creusé la division entre les différentes communautés, entre les différentes ethnies du pays. Mmh. Mais je pense que ces cinq dernières années, aujourd'hui, les Guinéens sont de plus en plus en train de ressortir l'histoire, de l'étudier, de la regarder avec responsabilité. Il y a eu un débat qui s'est posé récemment par rapport à la publication d'un livre qui a porté sur les violences de Sékou Touré. Mmh. C'est un livre qui retrace de manière...
Le livre publié par la FIDH.
Pas tout à fait complète, oui, pas tout à fait complète, mais au moins qui permet aux uns et aux autres de savoir que ce qui s'est déroulé sous le régime de Sékou Touré n'a pas été occulté, n'a pas été oublié. Ça existe, ça se trouve encore dans le débat.
C'est ça.
Aujourd'hui, les gens sont on est de plus en plus en train de partir dans un processus de réhabilitation, non seulement des victimes, mais aussi de réhabilitation de ceux peut-être qui ont été accusés à tort d'avoir commis des crimes qu'ils n'ont pas commis. Mmh. On est dans un processus qui est certes lent, mais qui, à mon avis, va permettre aux Guinéens de s'asseoir à un moment donné, de regarder l'histoire en face, d'en tirer les leçons, et de décider de se pardonner ou de se rendre justice.
Et faire ce devoir de mémoire, on entend bien. Claude-André Loubaya, je ne sais pas si vous étiez né en 60, hein, la Guinée, donc premier pays à accéder à l'indépendance, premier pays francophone à accéder à l'indépendance. Quel regard vous portez sur l'histoire de ce pays au cours de ces 60 années? Monsieur le député.
Presque la même histoire. Allô?
Oui, on vous entend. Allez-y.
Oui, je crois que la Guinée a presque la même histoire que bon nombre de pays africains qui ont eu leur indépendance durant la même période. Mais pour le cas particulier de la Guinée, je crois qu'ils ont un devoir historique aujourd'hui, c'est quand même de réhabiliter la mémoire. Vous savez que c'est le pays le premier pays d'Afrique francophone à avoir son indépendance, à affronter le général de Gaulle et à faire valoir la nécessité de vivre dans la pauvreté tout en étant libre. Mais j'ai toujours comme l'impression en lisant et en suivant la situation en Guinée que cette pauvreté tant vantée par Sékou Touré en 58 continue jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
De sorte que les conditions de vie, l'indépendance obtenue en 58 ne s'est pas encore traduite par des faits à travers l'amélioration des conditions de vie des populations. Le niveau de pauvreté va encore crescendo en Guinée, de sorte que finalement on se pose la question, mais à quoi aura servi cette indépendance? Mmh. Bien sûr, c'était nécessaire qu'il y ait.
On peut poser la question autrement, qu'en ont fait les acteurs politiques surtout?
Qu'en ont fait les acteurs politiques? J'ai suivi dernièrement avec amertume la dernière sortie du président
Alpha Condé
sur RFI, TV5 et France 24. Lorsqu'on lui demandait son bilan, il a dit que aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup d'hôtels et qu'on peut dormir dans de beaux hôtels. Oui. Mais je ne pense pas que les millions de Guinéens dorment dans ces beaux hôtels ou que les résidences ou l'habitat de tous ces Guinéens soit au même confort que celui qui est dans les hôtels. Ça montre là un échec de l'indépendance 60 ans après, mais surtout l'échec de la classe dirigeante. Dans le cas particulier d'Alpha Condé, après 40 ans d'opposition, oui, il est quand même inconcevable qu'après 40 ans d'opposition, il vienne juste rééditer ce qu'il contestait hier et qu'il avait poussé à entrer dans l'opposition. Ça pose quand même un problème pour la Guinée et sa classe politique, et j'espère que maintenant, 60 ans après, chacun pourra se remettre en question pour voir comment faire pour qu'au centenaire de l'indépendance de la Guinée, il n'y ait toujours pas de cases en Guinée, qu'il y ait encore des Guinéens qui meurent faute d'aspirine, de paracétamol, ou même tout simplement à la suite de la malaria. Mmh. Et donc je pense que les 60 ans d'indépendance devraient constituer pour la classe politique guinéenne le moment d'interpellation, de remise en question pour voir le parcours. Vous avez, comme l'a dit Laloupo, il y a quand même l'histoire avec le Tamboiro, qui est connu comme le camp de la mort, où plusieurs dignitaires ont été exécutés, notamment Diallo Télé, ancien secrétaire général de l'OUIA. Et tout ça, ça fait partie de la mémoire de la Guinée, mais c'est aussi la mémoire de l'Afrique. C'est aussi l'histoire de l'Afrique. Et je pense que nous tous, en tant qu'Africains, et particulièrement en ce qui me concerne, comme vous le voyez, notre parti, c'est un parti panafricaniste, nous avons le devoir d'accompagner et de soutenir nos frères guinéens pour qu'ils puissent se remettre en cause en cette période ici, pour voir comment traduire dans le concret, à travers l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens, les 60 ans d'indépendance acquis en 1958.
On va conclure sur cette actualité guinéenne en évoquant quand même cette tension politique récurrente dans le pays depuis l'élection de Alpha Condé. Cette semaine, cette tension a été ravivée par l'éviction du président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, qui entretenait, on le sait, des relations difficiles avec le chef de l'État Alpha Condé. Alpha Condé, donc, qui l'a remplacé cette semaine par décret, par Mohamed Lamine Bangoura. Alors, c'est vrai que tout cela se passe aussi sur fond, je veux dire, d'interrogation sur la possibilité de voir le président Alpha Condé aspirer à un troisième mandat, alors que la Constitution limite à deux les mandats présidentiels. Et voilà, c'est une question, évidemment, à laquelle le président guinéen refuse pour l'instant d'apporter une réponse très, très claire. Rapidement, Emmanuel Mélimono, alors, que nous dit cet épisode de la Cour constitutionnelle sur la situation politique dans le pays actuellement? Et puis par ailleurs, c'est vrai que la question du troisième mandat alimente de plus en plus les tensions politiques dans le pays.
De manière générale, ce qui existe, le climat qui existe surtout au niveau des acteurs politiques, mais aussi des Guinéens, des citoyens eux-mêmes, c'est ce suspense que le président Alpha Condé continue de maintenir autour de sa candidature. Il y a même certains opposants qui vous diront que le débat n'est pas posé parce que la Constitution, elle a fini de le régler déjà. Mais, sauf que cette crise à la Cour constitutionnelle relance tout le doute, parce que non seulement les conditions de départ de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, n'ont pas été conformes ni à la Constitution, ni à la loi organique même qui régit le fonctionnement de la Cour constitutionnelle elle-même. Il faut dire que ça a été carrément un coup d'État. Et on s'attendait, moi personnellement, j'ai été surpris quand j'ai suivi le décret de confirmation du nouveau président élu. Je pense qu'on s'attendait surtout à ce que le président Alpha Condé puisse remettre en cause cette élection et le départ du président Kélé Fassal, pour que les conditions de son départ soient réexaminées, qu'on voit exactement est-ce que les faits qui lui ont été reprochés par ses pairs sont fondés. Parce que le règlement intérieur de la Cour elle-même stipule que le président est inamovible pendant 9 ans.
Oui.
C'est d'ailleurs ce qui fonde son indépendance. Oui. Alors si au bout de 7-8 ans, on est en face d'une situation où on vous dit que le président de la Cour constitutionnelle a été débarqué pour des questions qui ne sont pas normalement adressées par les magistrats de la Cour, parce que les griefs qui ont été soulevés sont des griefs qui, en principe, relèvent de la compétence de la Cour suprême. Oui. Lorsqu'on reproche des faits de ce genre au président de la Cour constitutionnelle, il appartient à la Cour suprême de mener des investigations, de situer les responsabilités, et lorsqu'elles sont avérées, c'est à la Cour suprême de prendre des dispositions pour appeler à l'élection d'un nouveau président. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Les autres membres, ils sont 9 magistrats, 8 ont tout simplement décidé
de destituer, en quelque sorte.
De destituer. Donc, voilà. Il y a déjà cette procédure. On s'attendait à ce que le président Alpha Condé, si vraiment on n'était pas dans cette démarche de doute qui plane par rapport à un éventuel troisième mandat, on s'attendait peut-être que ça aurait été le dernier coup qui aurait permis aux Guinéens de se dire que, ouais, c'est clair, Alpha Condé n'assure pas un troisième mandat, parce que s'il avait invalidé cette élection, ça aurait donné un signal fort pour dire aux uns et aux autres que les institutions restent en place et que le président...
La question reste en suspens quand même. S'il vous plaît, alors je souhaite de vous interrompre, Mme Limono, parce que tout ça est très éclairant, mais il y a aussi, je dirais, il y a le chronomètre aussi qui impose son autorité et sa loi. Il nous reste très peu de temps. Je voulais évoquer avec vous rapidement, sans transition, la prochaine élection présidentielle au Cameroun, ce sera le 7 octobre, et ce dimanche donc, les électeurs feront leur choix parmi 9 candidats à la magistrature suprême, 8 candidats face au président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat après 36 ans aux commandes de l'État. Je voulais un commentaire rapide de votre part, Claude-André Loubaïa, sur cette élection au Cameroun. Là aussi, l'opposition peine à mettre en place une candidature commune et unique. Il faut dire que, voilà, à la toute veille de ce scrutin, cette coalition n'a toujours pas vu le jour. Et chaque candidat de l'opposition affirme qu'il dispose tout seul de tous les atouts pour être élu. Quelles sont, selon vous, les chances des candidats de l'opposition aujourd'hui dans cette élection à un seul tour, il faut le préciser?
Merci. Non, pour le cas du Cameroun, je crois qu'aujourd'hui, évoquer encore les chances de l'opposition dans les prochaines 72 heures, ce serait un miracle. Parce que sa situation semble plier. D'abord, l'ensemble de candidats n'a pas le même droit, les mêmes chances de participation, de préparation et d'organisation de la campagne. Les médias d'État sont tous mobilisés, rien que pour Paul Biya et tous ses hommes. L'armée, la police, la gendarmerie, les renseignements sont tous debout et toute l'administration, tout le monde est responsable de la campagne, en commençant par le Premier ministre d'ailleurs. Oui. Tout le monde est organisé et prêt pour la campagne, et tout le monde fait la campagne de Paul Biya. Je ne vois pas dans ce contexte Paul Biya perdre une élection, même si l'opposition venait à se fédérer à 24 heures, parce que là il reste presque 24 heures, je crois que c'est le dernier jour de campagne aujourd'hui ou demain.
Nous sommes vendredi.
C'est ce vendredi. Oui. Je ne pense pas que l'opposition ait encore beaucoup de chance. Je crois que la situation pour le Cameroun s'est pliée, mais c'est quand même une honte pour l'Afrique. J'ai suivi même une grande star de foot apporter son
Samuel
soutien.
Samuel Eto'o
apporter son soutien. J'ai dit, mais en fait, dans ce pays-là n'a pas de chance de voir que les jeunes qui pouvaient incarner l'espoir se font malheureusement porte-étendard. Du passé, d'un passé qui n'est même pas un modèle pour le Cameroun. Je crois en même temps aussi que Paul Biya a installé quand même au Cameroun un régime de terreur, mais en même temps aussi aujourd'hui, qui ne maîtrise pas le pays, notamment dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, là-bas, avec tout ce qui se passe en région anglophone.
C'est ça.
Et région anglophone à laquelle personne n'est allé battre campagne. Et donc ces régions anglophones ne vont pas voter dimanche. Ça montre déjà qu'il y a quand même un problème sérieux de l'unité du Cameroun, un problème sérieux de l'administration de ce territoire camerounais. Mais tout cela, c'est causé par la négligence, l'incurie de Paul Biya, dont la trentaine d'années à la tête du pays l'a complètement moisi et fatigué. Mais malheureusement, pour dimanche, je crois que c'est plié pour l'opposition, n'ayant pas réussi à se fédérer autour d'une candidature commune et n'ayant pas réussi surtout, ne fût-ce qu'à se fédérer autour d'une stratégie commune de suivi et de monitoring du processus pour s'assurer de la bonne tenue de la campagne, mais surtout de la compilation des résultats et de leur publication.
Vous avez fait un tour complet de cette actualité, monsieur le député, parce que vous avez même répondu aux questions que j'allais vous poser, que je n'ai même pas pu vous poser, mais vous avez répondu sans que j'aie eu à le faire. C'est très bien. Merci beaucoup. On va écouter à présent les messages de nos auditeurs postés sur Internet, sur notre page Facebook. Messages recueillis et livrés à présent par Richard Mboué-Kijina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. République démocratique du Congo, Maurice BLS, demande à notre invité s'il pense que l'opposition va remporter cette présidentielle. Et Patrick Levy, de son côté, avance que l'organisation de cette élection sera un fiasco et pense qu'une transition sans Kabila devrait être mise sur pied pour la tenue d'un scrutin transparent. Et quant à Patrick Balabala, il se demande ce que fera l'opposition en cas de victoire d'Emmanuel Chadari. Sur la Guinée, Charles Bazima affirme que cette semaine, le château d'eau de l'Afrique a célébré 60 ans de souffrance, de pauvreté et surtout de corruption. Et enfin, la présidentielle au Cameroun, Didos Didier Afodo, appelle notre invité à s'exprimer sur la longévité au pouvoir de Paul Biya et sur le soutien de Samuel Eto'o apporté à celui-ci qui brigue un 7e mandat. Merci à Pascal Kalala Boulou et Zachary Roger Mbarga qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup Richard Thierry Umbwe Kijina, merci beaucoup. Alors c'est une question qui a été posée évidemment par les auditeurs auxquels ont déjà répondu nos invités, auxquels a répondu singulièrement, principalement Claudel André Loubaya. Mais c'est la tradition, monsieur le député, une conclusion générale en tout cas à la fin de cette émission, peut-être sur la situation en RD Congo. On aurait pu évoquer également les violences en cours à Beni, dans votre pays, évidemment des violences récurrentes, en tout cas des violences qui s'intensifient et qui inquiète beaucoup l'opinion congolaise et internationale.
D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité dans cette émission. C'est un honneur et je vous en remercie infiniment. Je pense pour le Congo, je peux dire deux choses aujourd'hui. La première, c'est encore une fois me réjouir et exprimer ici la joie que je ressens et que ressentent des millions de mes compatriotes à la suite de l'octroi du prix Nobel de la paix à un des nôtres, docteur Mukwege, qui mène une lutte acharnée pour la paix à l'est du pays, contre les violences faites à la femme, et qui s'est vu aujourd'hui rejoindre, entrer dans le panthéon de grandes sommités, bénéficiaires de ce prix depuis qu'il a été instauré. Mmh. Ça c'est un. Mais deuxième chose, c'est que le processus en cours dans notre pays, il mobilise l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de notre peuple. Il y a des raisons d'espérer à ce stade qu'il pourrait se dérouler dans les bonnes conditions, mais en même temps aussi qu'il pose un certain nombre de problèmes, oui, notamment en ce qui concerne sa fiabilité, en ce qui concerne sa lisibilité, mais surtout en ce qui concerne la sincérité des résultats qui en sortiront. Et ça, ça fait l'objet d'une mobilisation générale de notre peuple qui reste éveillé et qui est prêt à recourir à l'article 64 de la Constitution au cas où le pouvoir persisterait à lui imposer sa volonté.
Merci beaucoup, monsieur le député Claudel André Loubaya. Vous étiez notre invité dans cette édition des débats BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Vous êtes député à l'Assemblée nationale de la RD Congo et président de l'UDA originelle, c'est l'Union démocratique africaine originelle. Merci à notre confrère Emmanuel Milimono qui était avec nos téléphones depuis Conakry, reporter de la China Central Television à CCTV en Guinée. L'émission a été réalisée à Paris par François Richard, chargé de production, Richard Thierry Umbwe Kijina depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous et prenez grand soin de vous.